Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain et merci beaucoup pour le brin de muguet.
Eh bien écoutez, ça m'a fait grandement plaisir. Comment ne pas penser à vous offrir cette fleur en ce jour si particulier.
Quel menteur.
C'est vrai.
Alain Baraton, jardinier de Versailles, c'est honteux. Aujourd'hui 1er mai, vous n'allez pas me dire qu'on va encore parler du muguet?
Eh bien pourtant j'aurais pu. La dernière fois que j'en ai parlé un 1er mai ici même, c'était en 2014. Non, alors rassurez-vous, je ne vais pas tous les ans faire comme
j'étais
mes confrères.
J'étais déjà là en 2014.
Alors, oui,
si
oui.
C'est pas le muguet, c'est quoi?
Eh bien l'autre... À l'arbre, la plante symbole des travailleurs, le boulot.
Le boulot,
bah oui,
sûr.
Le boulot, bah oui.
Cet arbre qui est originaire des régions froides de l'hémisphère nord.
Eh oui, il en existe, sachez-le, 50 espèces et les hommes depuis toujours ont su l'utiliser comme les Indiens d'Amérique du Nord qui employaient son écorce pour fabriquer des canoës. Plus proche de nous, les Scandinaves confectionnaient toujours avec l'écorce des gants et après carbonisation des chaussures. Au XVIIIe siècle, en Europe, les feuilles de bouleau étaient servies en infusion et les bourgeons en décoction pour soigner toutes les maladies, ou presque. Autre utilisation bien française, Eric, et qui devrait vous plaire, c'est avec ses branches qu'était faite la badine, qui fouettait les fessiers des écoliers dissipés, d'où son joli surnom d'arbre de la sagesse.
Vous m'expliquerez pourquoi ça devrait me plaire. au Canada, une chenille ne vit que dans le bouleau.
Et oui, et pour se défendre, elle a mis au point une technique véritablement incroyable. Tout en mangeant les feuilles du bouleau, notre bestiole se construit au-dessus d'elle un nid avec des brindilles qui la protègent des oiseaux. Ainsi camouflée, il ne la voit pas.
Mais la chenille ne quitte jamais son nid et se déplace toujours avec sa protection donc.
Oui, mais si elle est capable de se protéger des volatiles, elle ne peut pas faire grand-chose quand l'ennemi est un insecte qui lui est nuisible et qui peut, sans problème, l'atteindre facilement. Aussi, pour se défendre, dès qu'un intrus se pose sur la feuille et la menace, notre chenille se met à bouger son corps pour faire vibrer la feuille. Toutes les autres chenilles dans le bouleau en font alors de même, et au bout de quelques instants, c'est l'arbre tout entier qui se met à trembler.
Ouais, et ce tremblement d'ailleurs attire les oiseaux.
Les oiseaux qui en se posant ne voient pas notre chenille, qui est bien cachée, mais ils aperçoivent distinctement l'insecte prédateur qui, lui, n'a pas de protection. Et le boulotte, la chenille, est donc capable d'utiliser...
Il y a un jeu de mots entre boulot et boulotte, non?
Eh ben oui, non. Alors, notre chenille est donc capable d'utiliser un ennemi pour se débarrasser d'un autre ennemi. Au Canada, pour les chenilles, le boulot, c'est la santé.
Bien sûr, comme disait Henri Salvador, ou quelque chose comme ça.
Oui, par contre, il serait amusant, Patricia, de vérifier si effectivement, il n'y a pas la même étymologie entre boulot et bouloté.
Eh bien, on vérifiera.
Nous allons vérifier.
On vérifiera ça. Alain Baraton, vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. Maryse à Auxerre vous demande comment éradiquer l'égopode qui envahit les massifs.
Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est donc l'égopode?
Dites-nous, un égopode c'est quoi?
On connaît tous cette plante. On nous faisait croire quand nous étions enfants que c'était les carottes sauvages. On est dans la campagne, il y a des grandes plantes avec des tiges bien rigides, des fleurs en ombrelles blanches. Et quand on les arrachait, il y avait une racine qui sentait la carotte. C'est l'égopode. Alors comment fait-on pour l'arracher? Ben, on fait exactement ce que je viens de dire. On se penche et on l'arrache.
Voilà.
Non, mais, soyons clairs, la planète aujourd'hui ne supporte plus d'être régulièrement agressée. Si on y met des produits, on va continuer à la détruire. Donc on arrache et
l'huile
on arrache.
De coude, et ça suffira.
Oui, et c'est gratuit.
Richard nous dit, j'ai plein...
Oui. Et pardonnez-moi, mais il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé...
Ah, je croyais que vous l'aviez dit, il y a longtemps que je ne me suis pas baissé sur une plante.
Oui, mais de mon
parce
physique,
que c'est vrai
justement.
Aussi.
Le jardinage permet d'entretenir son corps. Ce matin, j'ai été surpris de voir des gens qui m'appellent maintenant par mon véritable surnom, la brindille. Vous-même, d'ailleurs, c'était le surnom. Oui, donc non, comme quoi, ça fait du bien.
Ça va pas du tout, Alain Baraton. Faut qu'on en reparle.
Richard. Notre invité, Pascal Cossard, est absolument affligé.
Richard.
Je l'avais prévenu.
Je vais y aller avec la question de Richard ou pas? On y va.
Allez-y.
Il a planté, il y a 5 ans, un magnolia d'environ 70 cm de haut. Et depuis, eh bien, l'arbuste ne grandit pas, ou peu. Il a fait quelques fleurs et c'est tout. Il est planté, précise Richard, sur un terrain en Haute-Savoie à 450 mètres d'altitude. Que faire?
Cet arbre est-il protégé du vent? Je doute. En montagne, il y a souvent du vent. Et le problème de l'ennemi, enfin l'ennemi principal du magnolia, c'est le vent. Le magnolia n'aime pas. Il peut vivre au soleil ou à la mi-ombre, ça ne le dérange pas trop. Il aime bien les sols riches qui sont frais. Il aime bien les terres qui ne retiennent pas l'eau. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il n'aime pas trop les courants d'air. Alors, il supporte le froid, mais les vents glaciaux beaucoup moins. Que faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Je le dis souvent, il suffit parfois de déplacer un arbre de quelques mètres à peine pour qu'il se sente mieux. Mais surtout, ce qu'il faut faire, parce que les plantes de montagne sont un peu particulières, eh bien, c'est se promener, aller voir ce que les autres à côté ont planté. S'il n'y a pas du tout de magnolia dans la région, ne cherchez pas, c'est que la plante n'est pas adaptée. Si par contre il y en a et des beaux, alors c'est que vous n'avez pas totalement la main verte.
Yvon, depuis un an, dit-il, j'ai sur ma terrasse, exposé au vent marin et ombragé, un citronnier en pot. Alors il y a eu des cochenilles traitées au savon noir, et puis depuis, ses feuilles ont blanchi, et puis elles sont toutes tombées. Il n'est pas mort, mais n'a pas réagi lorsque je l'ai rabattu. Ni lorsque je lui ai mis de l'engrais en mars. Alors vous demande Yvon, que dois-je faire ?
Arrêtez de trop toucher à ce citronnier qui apparemment a subi toutes les injures. Un, on met si j'ai bien compris, on met du savon noir et ensuite il perd ses feuilles. Le savon noir, ça se dilue souvent. Mm-hmm. Donc j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu beaucoup. La plante est complètement déjà en difficulté. Que fait-on ? On la rabat. Là, le végétal doit se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et en plus, on y met de l'engrais. On ne met jamais d'engrais à une plante en souffrance. Non. Jamais, jamais, jamais. Donc on est en train d'expliquer, vous êtes en train d'expliquer en une phrase admirable construite, ce qu'il ne faut jamais faire avec une plante. Un, quand il y a les bestioles, on va mettre des produits peut-être de type savon noir, mais on dilue, on y va avec douceur et on renouvelle l'opération de temps en temps, mais on n'en met pas trop. Deuxièmement, on ne taille une plante qu'après la floraison et qu'après la fructification. Jamais avant. Et surtout, on ne met jamais, jamais d'engrais à une plante, entre autres en souffrance.
Allez, on termine par un dernier conseil pour le week-end.
Un drôle de bouquin, ça s'appelle « Droit des jardins et des jardiniers ». C'est écrit par un juriste compétent, Jean-Louis Sablon. On y apprend tout sur la réglementation qui concerne bien sûr les jardins, les jardiniers. Bon, c'est pas un livre qu'on amène avec soi en vacances, mais il est vrai qu'on y apprend quantité de choses. Je répète donc, « Droit des jardins et des jardiniers », c'est publié aux éditions Presse Agricole.
Alain Baraton, jardinier de Versailles,
merci. À demain, ma petite brindille.
À demain.